enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On va ouvrir la parole dans 2 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 9. Il est dit, 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On peut se demander, mais est-ce que Paul était déréglé? Est-ce que Paul avait un problème? Est-ce que Paul avait un souci? Est-ce que Paul était un fou? Non, ce verset de l'Écriture nous montre une vérité dont Paul s'était emparé. Lorsque je ne compte pas sur mes propres forces, mais que je réalise que je suis faible sans lui, alors la puissance de Dieu peut agir en moi. Il est dit au verset 4 du chapitre 13, « Car Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. » En réalité, le monde est faible sans Christ. Et les gens du monde nous regardent comme des gens faibles, comme des gens misérables, comme des gens qui sont obligés de se trouver un Dieu pour répondre à leurs besoins. Et la Bible nous dit que Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse. Paul aurait pu ajouter, « Je parle à la manière des hommes. » Est-ce que Christ était faible? Est-ce que Christ était faible? Lui qui s'est laissé frapper, qui s'est laissé injurier, qui s'est laissé cracher dessus, ce même Christ a ressuscité des morts. Ce même Christ a opéré des miracles. Ce même Christ est disponible aujourd'hui pour vous guérir. Ce même Christ a guéri des lépreux. Ce même Christ a fait des prodiges. Mais aujourd'hui, le monde dépeint Jésus comme un être faible, un être misérable. Il le montre sur la croix, la tête vers le bas, les meurtrissures sur lui. Vous pouvez passer devant un crucifix avec Jésus dessus, et dans 5 ans, Jésus sera toujours sur le crucifix. La tête faible, le regard faible. Les gens nous montrent Jésus comme un petit bébé tout mignon dans une petite crèche. Les gens nous montrent Jésus comme un petit être faible, ridicule. Mais cette faiblesse était la puissance de Dieu dans ce monde. La seule puissance de Dieu dans ce monde disponible. Alors on va voir aujourd'hui ce qu'est réellement la faiblesse de Dieu et ce qu'est la faiblesse de l'homme. Au verset 5 de 2 Corinthiens 13, il est dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» En réalité, aujourd'hui, beaucoup dans l'Église réagissent et vivent comme s'ils étaient des super-héros. Les gens qui sont dans les Églises, et tout être en général, vivent comme s'ils étaient des super-héros. Ils vivent leur vie, la dirigeant par eux-mêmes, la dirigeant par leur propre force, la dirigeant par leur propre intelligence, la dirigeant par leur propre raisonnement. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent forts, musclés, intelligents. Beaucoup de ministères aujourd'hui qui marchent comme des pingouins. J'étais dans une église et il y avait des hommes de Dieu qui étaient rassemblés. Et je disais bonjour à un, je disais bonjour à l'autre. Tout d'un coup, je suis arrivé devant un troisième, il était habillé tout en blanc. Et je lui ai tendu la main, et il m'a regardé comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Beaucoup parce que le Saint-Esprit vient en eux. Ils pensaient être des super-héros. Parce que Christ les a sortis de la misère. Ils pensaient être des Superman. La Bible nous dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Et que celui qui se croit fort ne prenne garde de mourir. D'une manière plus générale, beaucoup dans l'Église se croient forts, trop forts pour ne pas pécher. Celui qui pêche, dans le monde, il est vu comme celui qui est faible. Quand vous êtes au collège, si vous ne fumez pas, les autres vont se moquer de vous, parce qu'ils vont vous voir comme quelqu'un de faible. Dans le monde, si vous n'allez pas en boîte de nuit, quand vous êtes jeune, vous êtes vu comme quelqu'un de faible. Dans le monde, si vous ne sortez pas avec une fille ou un gars quand vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous êtes vu comme un faible. Le péché, c'est manquer la cible. Et il y a des gens qui pensent être trop forts pour ne pas pécher. Trop forts pour ne pas pécher. Quand tu pèches, tu commences à dire « je suis plus fort que Dieu » parce que je désobéis à Dieu. Trop fort pour ne pas décider ce que je veux. Tu achètes une maison, tu achètes une voiture, tu veux changer de ville, tu veux changer d'appartement, tu veux te marier, tu ne peux pas décider tout seul. Nous ne pouvons rien faire tout seul, nous ne pouvons rien faire sans Christ. Trop fort pour dépendre de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre une journée sans Christ. Nous dépendons de lui. Nous dépendons de Christ. Trop fort pour ne pas vivre dans l'esprit. Je ne vivrai pas dans l'esprit. Je vis avec ma chair. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de jeûner. Non, je suis trop fort. Et les gens se pensent trop forts. Je n'ai pas besoin de dépendre de Dieu. J'ai déjà la parole. Elle me suffit, elle est là, sur ma table de nuit. La parole sur ta table de nuit ne t'apportera jamais la victoire. Beaucoup de gens se sentent trop forts pour devoir aimer. Des gens qui disent « j'irai jamais dire bonjour à cette personne-là ». Mes amis, dans l'Église, il y a un véritable manque d'amour. Un manque d'amour. Combien sont les gens qui s'embrassent? Combien sont les gens, où sont-ils, qui se prennent dans les bras les uns les autres? Combien sont les gens, quand il y a une difficulté, un frère qui est dans le besoin, vont leur apporter quelque chose? Combien de frères et de sœurs qui sont fatigués, oppressés, combien vont aller les voir et les exhorter? Trop fort pour devoir aimer. Je suis trop fort pour devoir aimer. Mais nous devons aimer. Nous devons aimer. Depuis notre nouvelle naissance, il y a l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et vous savez, vous pouvez laisser couler l'amour. Vous pouvez laisser couler l'amour. L'amour, c'est quelque chose. L'amour se donne. L'amour s'apporte. Jésus a dit qu'il y avait beaucoup de joie à donner, à aimer. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, il est dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu, la faiblesse de Jésus-Christ, est plus forte que les hommes. » Vous savez, Dieu n'est pas glorifié quand nous sommes dans la pauvreté. Dieu n'est pas glorifié quand nous sommes dans le malheur. Dieu n'est pas glorifié quand nous sommes dans la maladie. Non. Dieu est glorifié quand nous commençons à mettre notre foi en lui et qu'il nous sort de la maladie, qu'il nous sort de la pauvreté, qu'il nous sort des problèmes. Voilà comment Christ est glorifié. La fin de Christ n'a pas été faiblesse, Mais par Christ aujourd'hui, tous peuvent être puissamment sauvés. Christ n'a pas eu de fin. S'il y a eu une fin dans le monde physique qui a été vue comme faiblesse par les hommes, Christ est ressuscité. Et Dieu ne veut pas que nous restions dans la faiblesse humaine. Il veut nous sortir de notre faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que Christ peut me rendre fort. Mais comme je me crois fort, Christ ne peut rien faire. Quand je me crois intelligent, Christ ne peut rien faire. Quand je me crois assez fort pour diriger mon business tout seul, mes affaires, ma caisse, Christ ne peut rien faire. J'ai besoin de Christ. Vous avez besoin de Christ. Nous avons besoin de Christ. Les gens sont malheureux. Les chrétiens sont malheureux. Ils crient, mais pourquoi Dieu ne fait pas plus dans ma vie? Et parce qu'ils ne sont pas dépendants de Christ. Nous devons dépendre de Christ. Voilà ce qui glorifie Dieu, c'est de nous sortir de la misère, de nous sortir de notre faiblesse. Voilà comment est glorifié Dieu. Voilà comment Dieu se glorifie. Au verset 26, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Christ crucifié est une folie pour les païens. Les sages sont confondus par le miraculeux. Les sages sont confondus quand un miracle divin surgit. Dieu choisit les inéduqués pour les éduquer en Christ. Dieu choisit les malades pour les guérir. Dieu choisit les gens qui ont des problèmes pour faire de ces gens des gens qui vont répondre aux problèmes. Dieu choisit les vieux pour les rendre forts et jeunes. Dieu choisit les jeunes pour les rendre âgés en connaissance, en sagesse et en amour. Dieu nous choisit toujours pour nous changer. Dieu ne choisit pas des super-héros. Non. Dieu choisit des hommes faibles. Dieu choisit des misérables. Dieu choisit des dépressifs. Dieu choisit des malades. Dieu choisit des gens qui ont besoin de lui. Parce que les gens qui se disent n'avoir pas besoin de Christ, Christ ne peut rien faire. Les pharisiens pensaient que Christ ne pouvait rien pour eux. Les pharisiens disaient, mais à Jésus, nous sommes-nous aveugles? Et Jésus leur a dit, parce que vous croyez voir, voici vous êtes aveugles. Je ne peux rien pour vous. Mais quand celui qui est venu à Jésus a dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis aveugle, Christ l'a changé en homme qui voyait. Christ a changé sa vision. Christ a changé sa mentalité. Christ a transformé ses pensées. Nous avons besoin de nous mettre à genoux. Nous avons besoin de dépendre de lui. Nous avons besoin d'être faibles en Christ. Au chapitre 2, au verset 12, on se promène dans l'Écriture. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme naturel, littéralement, c'est l'homme psychique. L'homme psychique ne reçoit rien de Dieu. Mon père a passé des années dans les églises, mais par le raisonnement, il voulait réfléchir Dieu. Et beaucoup de gens veulent réfléchir Dieu. On ne réfléchit pas Dieu. On ne réfléchit pas Dieu. On ne peut pas prouver Dieu. On ne peut pas réfléchir Dieu. Et quand il a décidé de marcher dans la foi, quand il a commencé à croire un verset de l'Écriture, Christ est entré en lui. Nous devons devenir fous selon ce monde. Le sage, vous savez, il y en a dans les églises, ils se grattent le menton quand le pasteur dit quelque chose. Ils réfléchissent. Les langues, le miracle, l'amour au point d'aller voir les prostituées pour leur parler de Jésus? Le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Non, le Saint-Esprit n'agit plus dans l'Église aujourd'hui. C'était pour hier. C'était pour la Pentecôte. Non, aujourd'hui nous devons rester sur la croix avec Jésus. La sagesse humaine, intelligence humaine, réflexion humaine vous éloignera toujours de Christ. Christ a besoin de gens qui sont fous. Il est dit dans 1 Corinthiens 3:18 que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage selon Dieu. Beaucoup de gens se croient sages aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de gens ont passé des années dans les églises et ils entendent des messages, ils se disent « mais je l'ai déjà entendu ». On a besoin de devenir fous selon Dieu. Nous devons devenir des fous selon Dieu. La croix est une folie pour le monde. Nous devons croire en la croix et nous serons sages selon Dieu. Les langues sont une folie pour ce monde. Nous devons croire aux langues. Et nous serons sages selon Dieu. Les miracles sont une folie pour ce monde. Nous devons croire aux miracles. Et nous serons sages selon Dieu. Danser dans l'esprit, dans l'église, est une folie pour ce monde. Nous devons danser dans l'esprit. Toujours dans l'amour et dans l'esprit, je dis bien. Et nous serons sages selon Dieu. En fait, la Bible nous montre simplement que nous ne devons pas marcher selon ce siècle présent. Vous savez, l'esprit du monde est entré dans l'Église. L'esprit de ce siècle est entré dans l'Église. Et nous devons être transformés dans notre intelligence, transformés dans nos pensées. Alors, ceux qui commencent à marcher dans la foi, à vivre par la foi, même au sein de l'Église, sont vus comme des fous. Ceux qui commencent à croire en promesses de Dieu sont vus comme des fous. Ceux qui commencent à agir dans l'esprit sont vus comme des fous. Ceux qui commencent à s'appuyer fermement sur la parole de Dieu sont vus comme des fous par les religieux. Quand ma femme et moi, on s'est mariés à 20 ans parce qu'on pensait que c'était la volonté de Dieu, les gens ont cru qu'on était fous. Se marier à 20 ans, 3 divorces, non. Sur 15, ouais. Sur fous. Fous. Quand les gens m'ont vu partir de ma belle Bretagne avec mes belles plages, avec ma belle situation, ma petite maison pépère, vous allez à votre boulot, vous mettez 2 minutes à pied. Vous allez aux courses, c'est là 5 minutes. Tout est à côté. Le sable est chaud, même si en Bretagne on dit qu'il pleut. Mais c'est pas vrai, il fait toujours beau. Ma belle Bretagne, bien tranquille, avec un appel pastoral qui était prévu pour moi. Tout était prévu pour moi. Jusqu'à ce que Christ m'appelle à venir à Paris. La ville où je disais jamais j'irai à Paris, à venir dans une maison au début de mon mariage, habitant à 7 dans une maison, avec des gens que je ne connaissais pas, à travailler plus de 50 heures par semaine pendant plus d'un an, bénévolement, fou selon ce monde. Mais quand vous commencez à agir dans la foi, quand vous commencez à agir parce que vous avez reçu un réma de Dieu, vous pourrez être vu comme fou selon ce monde, mais vous serez sage selon Dieu. N'ayez pas peur de devenir fou selon Dieu. N'ayez pas peur de marcher dans l'esprit. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Ouh, faut pas que je bouge un peu trop le bras. Ouh, ça pourrait déranger mon voisin. Faut pas que je me mette à genoux dans l'église. Ça pourrait déranger ma voisine. Faut pas que je fasse ce que Dieu me dit de faire. Non, je dois aimer. Mais Dieu agit dans l'amour. L'Esprit de Dieu agit dans l'amour. Il ne faut pas que je me lève et que j'exhorte. Il ne faut pas que je fasse ce que Dieu me dit. Nous devons être fous selon Dieu. Dieu choisit des gens qui pensaient être sages, mais qui un jour se sont dit « Je ne suis pas si intelligent que ça. Je ne suis pas si fort que ça. » Dieu les prend et il les rend fous. Dieu les prend et il les rend fous selon ce monde. Des gens qui vont prier dans les hôpitaux pour des malades, croyant que Dieu va les guérir, ce sont des fous. Vous qui croyez à l'action du Saint-Esprit, vous êtes fous selon ce monde. Mais Dieu agit avec les fous. Et quand vous commencez à devenir sage selon ce monde, vous commencez à ne plus marcher dans la parole de Dieu. Vous commencez à aller au-delà de la parole de Dieu. Quand vous commencez que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, vous commencez à être sage selon Dieu. Mais quand vous commencez à dire aux gens « Christ est ressuscité », vous devenez fou pour eux. Nous devons croire en la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, au verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Regarde ce qu'elle a dit sur toi. Tu vas le laisser dire ça? Regarde ce qu'il a dit sur toi. Alors tu commences à parler mal. Oh, regarde ce qu'il m'a dit sur moi. Regarde ce qu'il a dit sur moi. Et tu vois une deuxième personne. Regarde ce qu'il a dit sur moi. Tu vois une troisième personne. Regarde ce qu'il a dit sur moi. Vos paroles sont comme des murailles, comme des pierres qui tombent sur vos têtes. Quand vous parlez en mal sur quelqu'un, ces paroles retombent contre vous. Retombent sur vous. Après, vous vous étonnez que le ciel est fermé au-dessus de vos têtes. On ne peut pas se permettre de parler en mal. On ne peut pas se permettre de faire sortir de nos bouches des choses sales, des choses misérables, des choses honteuses. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Et plus haut, calomniés, nous consolons, nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Il y a une foule de gens dans l'église qui sont là que pour recevoir. Nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons. Les pasteurs, les ministères prennent le prix, prennent la croix, prennent leur croix. Et les chrétiens, parfois, et les hommes, parfois, reçoivent, 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 mais ne sont jamais prêts à supporter la douleur qu'a subi Christ. Si vous suivez Christ, vous devrez porter la croix de Christ. Il y a un prix à payer si vous voulez voir la gloire de Dieu. Les apôtres, ils étaient là, des condamnés à mort, des rebuts, les dénuements, les coups. Mais par leur vie de sacrifice, ils apportaient la gloire de Dieu dans ce monde. Et si vous voulez voir la gloire de Dieu, il va falloir entrer sur le chemin de la croix pour voir la gloire de Dieu. Beaucoup sont assis et reçoivent sans cesse, reçoivent constamment. Trop parmi nous pour qui le temps est venu d'entrer en guerre, d'entrer sur le chemin de la croix. Dans 1 Corinthiens 5, du verset 1 à 7, il est parlé que dans l'église des Corinthiens, il y avait là du péché, des choses horribles. Quelqu'un avait la femme de son père et Paul l'a livrée à Satan. Et au verset 6, il est dit, « Il n'est pas beau votre sujet de gloire, ce qui se passe dans votre église. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été humilié. Christ, notre Pâque, a été immolé. » On devrait s'humilier. Beaucoup de gens sont trop fiers dans l'Église. Beaucoup sont trop fiers. Peur de s'humilier. Peur de se mettre à genoux. Certains se disent, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais moi je ne me sens pas fort. Mais alors pourquoi pêches-tu? Ne dis pas que tu ne pêches pas. Mais quand tu commences à pêcher, c'est parce que tu te crois fort. Tu crois que le péché t'amènera plus loin que ce que Dieu dit. Dieu t'a dit de marcher sans voler, sans mentir. Mais quand tu commences à mentir, tu crois que ton péché, ton mensonge, t'apportera plus que te dire la vérité. En effet, il y a des forts, des gens qui se sentent forts dans l'Église. Et on a besoin de s'humilier. Dieu aime un esprit brisé et contrit. Et c'est vrai Le message de la foi est venu, le message de la prospérité, le message de l'abondance, le message de la joie, de la foi. Mais il commence à avoir dans ce message-là le message d'un esprit brisé et contrit qui disparaît. Oui, nous croyons en la foi. Oui, nous croyons en la prospérité. Mais oui, nous croyons en des gens qui s'humilient. Si tu t'humilies, tu verras la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. Quand tu t'attaches à la convoitise pour lui obéir et commettre le péché, tu deviens maître de toi-même. Tu te fais maître de toi-même. Tu élèves ta vie au-dessus de la parole de Christ. Tu penses que ton choix est plus fort que celui de Christ, que tes petites pensées sont plus fortes que les pensées de Christ. Nous devons nous purifier, même si nous sommes nés de nouveau. On a mis le message de la nouvelle naissance pour dire « oui, nous sommes purs, mais nous devons constamment nous purifier par le sang de l'agneau, constamment revenir aux pieds du Seigneur avec un esprit brisé, un esprit contrit, un esprit qui ne dit pas « oui, j'ai déjà tout réussi, oui, je connais déjà tout, oui, je suis fort, oui, je prêche, oui, j'ai déjà vu un miracle ». Non, constamment un esprit brisé et contrit. Au chapitre 5 et au verset 8, il est dit « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Célébrons donc la fête. » Paul ici nous parle du culte de louange. Célébrons la fête, non pas avec du vieux levain. J'étais dans une église, et là, il y avait dans l'église des femmes africaines qui dansaient. Oh là, et dansaient, mais à fou, je ne peux pas vous le faire, là. Je ne danserai pas aussi bien qu'elles. Mais dansaient, transpiraient, il faisait de plus en plus chaud. Tout le monde dansait à fond. Waouh, on est chrétien, on est victorieux. Et le ministère qui était là a prêché la parole. Et après, il a fait un message qui était vraiment radical pour les gens qui avaient des profonds problèmes de péché. Et là, toutes ces femmes-là qui étaient là, celles qui dansaient le plus, toutes se sont approchées parce qu'elles vivaient dans le péché. C'est pas parce que vous dansez dans l'église que vous êtes dans la foi, que vous êtes de bons chrétiens. Paul nous dit « Célébrons la fête ». Non pas avec du vieux levain, mais agissons dans l'esprit et pas dans la chair. Oui, nous pouvons danser dans l'église, mais dans l'esprit. Oui, nous pouvons exhorter dans l'église, mais dans l'esprit. Oui, nous pouvons faire tout un tas de choses dans l'église, mais dans l'esprit. Rien ne doit être fait dans la chair, parce que ça va blesser les gens. Tout doit être fait dans l'amour. Combien se sentent trop forts aujourd'hui pour s'humilier devant Dieu et lâcher leurs péchés? S'il y a des gens qui pêchent parmi nous, lâchez vos péchés. Laissez vos péchés. Arrêtez de pécher. Vous savez très bien quel est votre péché. Vous savez très bien dans quoi vous tombez. Vous savez très bien ce que vous faites qui n'est pas bien. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Beaucoup sont trop forts, se sentent trop orgueilleux pour se mettre à genoux. Je parle à genoux physiquement dans l'église. Quand les gens à la Pentecôte, quand ils ont vécu le réveil de Pentecôte, il y avait là des gens qui se mettaient à genoux et qui criaient. Ils avaient besoin de crier devant Dieu, de se mettre à genoux. Mais beaucoup se sentent trop orgueilleux pour se mettre à genoux aujourd'hui dans l'église. Beaucoup se sentent trop grands pour louer le Seigneur de tout leur cœur. Tu loues le Seigneur à la maison de toute ta force. Et quand tu arrives à l'église, tu te ranges. On n'a pas besoin de se ranger. Celui qui ne veut pas déranger, il se range. Jésus dérangeait les gens. Quand il a craché par terre, qu'il a commencé à faire de la boue avec sa main, vous pensez que ça dérangeait les gens? Ça dérangeait les gens. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui, le Fils de Dieu. Quand on a amené à Jésus la femme adultère, et qui se met par terre à jouer avec du sable, entre guillemets. Les gens, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? On lui parle de quelque chose d'important. Et lui, il dessine par terre. Il dérangeait. Jésus dérangeait. Je ne vous dis pas qu'on a besoin de déranger. Je vous dis qu'on a besoin de marcher dans l'esprit. Ce que vous vivez à la maison, personnellement, dans votre culte de louange, vous ne devez pas vous ranger dans l'église. Vous ne devez pas attendre que l'équipe de louange commence à louer le Seigneur. Vous ne devez pas... On n'est pas au service militaire. Non, Dieu a choisi Pierre comme il était. Paul qui était tout à fait différent. Et Dieu te choisira et Dieu me choisira. Dieu vous choisit comme vous êtes, tel que vous êtes. Il y a des gens qui doivent dire on doit louer le Seigneur les mains tendues. D'autres qui diront on doit louer le Seigneur à genoux. Non, vous devez marcher tel que vous êtes, en accord avec la parole de Dieu. Recherchez plus de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se sentent trop sages pour parler en langue, pour recevoir les langues. Beaucoup se sentent trop sages pour croire à la guérison. Aujourd'hui, beaucoup se sentent trop sages pour dépasser les limites. On impose des limites. Beaucoup aujourd'hui ont trop de connaissances, sont trop intelligents pour croire en la parole de Dieu. Beaucoup se disent, j'ai toujours loué comme ça, je ne changerai pas. J'ai toujours loué dans cette pièce, dans ma maison, je ne bougerai pas. Et la religiosité s'installe, la religion s'installe. Le plus beau moment que tu aies vécu dans la louange et l'adoration, tu dois le revivre. Tu dois le revivre. Nous devons nous humilier et Dieu s'approchera et Christ s'approchera. Beaucoup dans l'Église sont trop orgueilleux pour croire que Dieu veut et peut les utiliser. Ils voient leur faiblesse si grande qu'ils se disent « Dieu ne peut pas changer mes faiblesses ». Mais même les faiblesses les plus grandes, Dieu peut les changer. C'est de l'orgueil de croire que Dieu ne peut pas vous utiliser. C'est de l'orgueil de croire que vos faiblesses sont plus grandes que Dieu. Beaucoup d'orgueilleux dans l'Église. Mais Dieu peut nous changer. Dieu peut nous transformer. Dieu peut nous rendre forts en lui. À partir du moment où nous nous humilions, où nous laissons toutes nos connaissances, où nous laissons tous nos péchés. Dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 24, il est dit, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Vous savez, là, je suis en train de vous dire pas mal de choses depuis tout à l'heure et mon intelligence, mon âme me dit que vous avez du mal à le supporter parce qu'on ne parle pas beaucoup de péché dans l'Église. Parfois, je prêche des messages qui ne sont pas là pour condamner mais qui disent « Voici où tu en es. Voici ce que tu vis dans ce que tu vis en ce moment. Tu vis dans le péché et tu dois sortir de là. » Et parfois, on est venu me voir et dire « Non, tu ne devrais pas dire ça. » Tu devrais plutôt dire aux gens, oui, vous êtes victorieux. Oui, 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 nous sommes victorieux. Mais on ne peut pas vivre dans la victoire et dans le péché. On doit sortir du péché. Et lui, Moïse, il a préféré être maltraité que d'avoir une jouissance du péché éphémère. Le péché nous amènera toujours à la mort. La fraude est souvent un manque de confiance en Dieu. Combien de fois on a voulu frauder dans les affaires, dans le business, dans le travail? Non, ce document-là, tu peux peut-être mentir un peu pour gagner quelques euros. Combien on a voulu mentir en vendant une voiture alors qu'on avait des choses de fait dessus? Vous avez eu des problèmes sur la voiture? Non, jamais, tout est très bien. Combien de fois on a voulu frauder dans nos examens? En trichant, au travail, pour vouloir une promotion, en trichant. Combien de gens veulent frauder dans leur mariage? Combien de gens veulent faire des compromis? Parce qu'ils se sentent plus forts que l'obéissance à Christ. Ils pensent que leur décision et leur pensée et leur fraude les amènera plus loin que ce que Christ a dit. Mais l'obéissance de Christ nous amènera à la gloire. L'obéissance de Christ et la persévérance en la parole de Dieu vous amènera à la gloire, vous amènera à la promotion. Une vie de sainteté vous amènera à la puissance. Le péché ne vous amènera qu'à être déçu, qu'à la déception. Il y a des gens qui pêchent, ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent. Et au bout de 10 ans, ils sont dans des situations, ils ne savent pas que leur situation est due à leur péché. Et il y a aussi des chrétiens qui marchent dans la sainteté et dans la persévérance. Et un jour, la promotion vient. Un jour, la promotion vient. Je vous dis que si vous êtes saint, si vous marchez dans la sainteté et l'obéissance à la parole, la promotion vient pour vous. La promotion vient pour vous. Quand vous arrêtez de penser que vous-même, vous pouvez vendre, vous pouvez faire votre business tout seul, la promotion vient. Quand vous arrêtez de penser que vous êtes intelligent, que vous connaissez déjà le sujet et que vous dites « Non Seigneur, c'est vrai, je connais le sujet, mais j'ai besoin de toi. » Christ se glorifie dans vos affaires. Christ se glorifie dans vos finances. Christ se glorifie dans votre famille. Au chapitre 11, au verset 32, jusqu'au verset 38, il nous est parlé d'hommes de Dieu qui par la foi vainquirent des royaumes, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, comme Paul qui a été lapidé, le lendemain il était en train de prêcher, furent vaillants à la guerre. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, tués par l'épée, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Pensez-vous que tous ces gens-là ont fait ces choses dans la chair? Non, ils ont fait ces choses dans l'esprit. Vous ne pourrez pas fermer la gueule des lions dans votre chair. Vous ne pourrez pas sortir de vos problèmes par votre chair. Vous devez sortir de vos problèmes dans l'esprit, en commençant à croire en la parole de Dieu. Tous ces gens ont marché dans l'esprit. Ce n'était pas dans la chair. Une église ne doit pas marcher dans la chair. On doit acheter un bâtiment, mais on ne peut pas. Tu commences à marcher dans la chair. Puisque la Bible dit que tout est possible à Dieu. Je suis malade, je ne peux pas faire ceci et cela. Tu marches dans la chair. Puisque la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amour, sagesse et foi vont ensemble. Amour, sagesse et foi vont ensemble. Dans toutes nos décisions, il doit y avoir de l'amour, de la sagesse et de la foi. Ils n'ont pas regardé leur vie comme ayant plus de valeur que l'obéissance à Christ, tous ces gens-là. Ne regardons pas notre vie comme ayant plus de valeur que l'obéissance à Christ. En obéissant à Christ, cela amène de la valeur dans votre vie. Par votre obéissance à Christ, cela amène de la puissance dans votre vie. Quand vous commencez à obéir à Christ, les paroles de connaissance commencent à venir. Les dons de connaissance commencent à venir. Les paroles de foi commencent à venir. Le miraculeux commence à venir. Il est dit au chapitre 12, après ces versets, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Rejetons tout fardeau et le péché. Il y a des gens qui disent « Non, moi, je garde mon fardeau. Je garde mon fardeau sur moi. » Ils marchent avec leur fardeau. Vous savez, comme des ados parfois, ils veulent porter le gros sac de ciment pour montrer qu'ils peuvent le faire. Ils veulent porter le gros sac de course. Ils préfèrent avoir mal, mais montrer qu'ils peuvent le faire. Et parfois, il y a des gens dans les églises qui sont comme ça. Ils gardent leur fardeau avec eux. Les dépressifs, s'ils déposaient leur fardeau, ils seraient guéris. La dépression, c'est une décision. C'est une décision. C'est dur, mais c'est vrai. Tu peux sortir de la dépression par une décision. Rejetons tout fardeau. Quand tu commences à rejeter tous les fardeaux, tu commences à dépendre de Christ. Ne gardons pas nos fardeaux. Il y a assez de fardeaux dans le monde pour que nous marchions avec des fardeaux. Ne marchons pas avec nos fardeaux. Rejetons tout fardeau et le péché. Le péché, c'est manquer la cible. C'est commencer à marcher sur un autre chemin que celui de Christ. Rejetons tout fardeau et le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivons dans la dépendance à Dieu. On n'est pas indépendant. On est dépendant de Christ. Rejetons le fardeau. Rejetons le péché. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu pries le Seigneur. Tu dis mais pourquoi? Et tu marches dans le péché. Je ne parle pas à tout le monde. À certains. Je ne connais pas les vies, mais Christ vous connaît. On doit rejeter les fardeaux et tout péché. Et tu verras la gloire de Dieu. Mieux vaut ne pas travailler en marchant dans le compromis avec des choses sales. Et Christ prendra soin de vous. Mieux vaut ne pas faire des affaires bizarres et marcher dans la sainteté. Et Christ prendra soin de vous. Vaut mieux ne pas se marier pour des papiers, pour un visa. Et Christ prendra soin de vous. Il vous apportera la bonne personne. Mieux vaut pas ne marcher dans l'incrédulité, mais dans la foi. Et Christ prendra soin de vous. Mieux vaut pas ne faire comme tout le monde. Marcher selon ce siècle présent qui dit que nous devons frauder tout le temps, constamment. Et Christ prendra soin de nous. Christ prend soin de nous. Au verset 2, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a méprisé la honte. Je méprise la honte aujourd'hui. Je déclare que je mépriserai la honte dans ma vie. Je n'aurai pas honte de Christ. Il a méprisé la honte. Il a méprisé le fardeau. Il a méprisé le regard des gens mauvais. Il a méprisé la honte. Est-ce que la honte est ton ami? La honte est-elle ton ami? Il y a des gens, ils marchent et ils prennent la honte avec eux. Vous savez, la honte peut être un ami. La honte peut être un ami. Beaucoup marchent dans la honte. Je marche avec ma honte, elle est là sur mon dos. Le Seigneur dit, allez évangéliser. Non, j'ai honte. Je suis timide. Sur le chemin de Dieu, il n'y a pas de honte. Sur le chemin de Dieu, il n'y a pas de timidité. La honte est un fardeau. Nous devons rejeter la honte. La honte est un fardeau. Et sur le chemin de la croix, sur le chemin de Christ, nous ne pouvons marcher avec le fardeau de la honte. La honte, c'est un fardeau qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de vaincre, qui nous empêche d'être comme des lions. Et il y a certains qui disent « Oui, mais moi, je suis timide. » La timidité nous empêchera d'avancer. Il n'y a pas de timide en Christ. La timidité, c'est quoi? C'est un fardeau. La timidité est un ami ou un ennemi. Quand tu dis « Je suis timide », tu prends ta timidité avec toi. Quand tu dis « Je suis marié », tu dis aux gens « Ma femme est avec moi. » Quand tu dis « Je suis timide », tu dis « Cette timidité est avec moi. » Quand tu dis « Je suis riche », cette richesse est avec toi, elle est ton amie. Quand tu dis « Je suis chrétien », Christ est avec toi. Quand tu dis « Je suis malade », ta maladie est un ami, elle est avec toi. Mais quand tu commences à dire « Non, je suis guéri », la guérison est avec toi. Je crois en la parole est avec toi. Confesse de bonnes choses. Confesse de bonnes choses. Smith a dit, on est en train de lire le livre en ce moment, vous avez peut-être besoin de crier. Parfois la timidité, parfois la crainte est un démon. Parfois c'est un démon. Et vous savez comment la timidité, le démon de crainte, sort dans la vie des gens? Il sort en criant. Il sort alors que vous commencez à devenir fou. La timidité sort alors que vous commencez à faire des choses qui pour vous sont impossibles. Des psychologues sont allés voir des gens timides et ont essayé de les faire sortir de leurs problèmes en appliquant quelques lois bibliques. Mais Christ est la parole de Dieu. Alors que vous êtes timide, vous avez besoin de crier. Est-ce qu'il y a des timides parmi nous? On a besoin de crier. J'étais timide, mais je ne le suis plus. Parce qu'un jour, j'ai crié. J'étais timide, mais je ne le suis plus. Parce qu'un jour, je n'ai pas eu peur de sortir de la limite qui m'était imposée par le monde. J'étais timide, mais je ne le suis plus. Parce qu'un jour, je me suis dit non, je ne veux pas louer comme tout le monde, je ne veux pas faire ceci comme tout le monde, je ne veux pas rester le visage fermé par ma timidité et ma crainte. Parfois, le démon de crainte, le démon de timidité, il ne sortira pas par le jeûne et la prière. Il sortira en criant devant les gens, en criant la parole de Dieu. Le démon de crainte sortira dans la vie des gens. Nous sommes dans une compétition. On ne peut pas se permettre de marcher avec le fardeau de la crainte. On ne peut pas se permettre de marcher avec le fardeau de la honte. On ne peut pas se permettre de marcher avec le fardeau de la timidité. C'est un fardeau. Enlevez tout fardeau. Enlevez tout fardeau de vos épaules. Le péché, c'est un fardeau qui vous empêche d'obtenir les promesses de Dieu. La timidité, c'est un fardeau. Alors que vous êtes dans l'église, là, assis comme vous l'êtes, et que Dieu vous dit, il y a une parole à donner. Non, je ne le fais pas. J'ai peur. La peur est un fardeau. Alors que vous êtes là, dans l'équipe de louanges, et que Dieu vous dit, fais un chant. Tu sors des limites imposées. Tu fais un chant. Tu consultes le pasteur, tu consultes celui qui dirige la louange, et tu fais ce chant dans la foi. Nous devons mettre la crainte sous nos pieds. Nous devons briser la crainte. Nous devons mépriser la crainte. Nous devons mépriser la honte. Pourquoi aujourd'hui tous ne sont pas sauvés? Parce que les gens ont honte de l'évangile. Christ n'a pas eu honte de nous. Christ n'a pas eu honte de nous. Alors que tu es dans le train, tu es en train de lire ta Bible, il y a quelqu'un à côté de toi, le visage triste et fatigué. Tu ne lui parles pas parce que tu as honte de l'évangile. Tu as honte qu'il te dise une parole. J'y crois pas, c'est n'importe quoi. Dieu n'a pas eu honte de nous. Nous devons marcher dans la foi. Nous devons marcher dans la liberté et pas dans la honte. La honte est un fardeau pesant sur les chrétiens. Adam et Ève ont eu honte quand ils se sont retrouvés tout nus dans le jardin d'Éden. David a eu honte quand il a commis l'adultère. Il a dû se cacher. Adam et Ève se sont cachés avec des feuilles parce qu'ils avaient honte. La honte est un fardeau. C'est un fardeau pesant. Et il y a un démon de honte sur la vie des gens. Un démon de honte sur les dépressifs. Un démon de honte sur ceux qui ne se sentent pas aimés. Un démon de honte sur ceux qui restent tout seuls chez eux. Un démon de honte sur ceux qui ne savent pas parler. Un démon de honte, de crainte, de timidité qui est sur l'Église, qui est sur les croyants, qui vient sur les croyants pour ne pas leur permettre d'avancer dans le miraculeux. Nous sommes dans une compétition. On ne peut pas se permettre de marcher avec un fardeau, de courir avec un fardeau. Vous avez déjà vu un champion du monde qui court une course avec un sac de ciment? On ne peut pas se permettre de marcher avec des fardeaux. Le fardeau de la honte. La honte est parfois un démon. Que les démons de honte fuient. Que les démons de crainte fuient. Vous allez faire vous-même sortir la crainte de vous-même, la timidité de vous-même. C'est une décision. Nous avons un message. Nous avons le message. Le message à apporter, la solution. Si vous avez une Ferrari, vous pensez que vous allez la laisser dans votre garage? Oh non, je ne vais pas prendre la route parce que j'ai trop honte. J'ai trop honte. Si vous avez une nouvelle coiffure, vous les femmes, à moins qu'elle soit ratée, est-ce que vous allez avoir honte? Vous n'avez jamais remarqué des fois dans la rue, il y a des femmes, elles avancent comme ça? Une belle coiffure, une belle houppette. Si vous avez un nouveau costume, un nouveau jean, apparemment il y a des hommes qui aiment bien avoir des nouveaux jeans. Vous avez un nouveau jean et vous arrivez au travail, vous marchez comme ça. Si vous êtes bronzé, commencez à mettre des manches courtes à votre boulot à Paris, parce que là, vous avez vu le temps. Et si nous achetons une nouvelle voiture, vous pensez que quand on arrive à l'église, on va la mettre derrière pour que personne ne la voie? Vous pensez que vous allez commencer à la rayer, à mettre un peu de boue dessus, à casser les vitres? Non. Nous avons le message. On ne peut pas avoir honte du message. On ne peut pas avoir honte de Christ. Christ est la solution. Il est toujours la solution. Il est toujours la solution. Toujours la solution. Christ est la solution. Il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il apporte la guérison. Il apporte la solution. Il apporte ton lendemain. Il est le chemin. Il est la vérité. Tout est vrai en lui. On ne peut pas être honteux du message de l'Évangile. Comment pouvons-nous nous permettre de ne pas prier pour les malades qui nous entourent? N'ayez pas honte. Il y a des chrétiens, leur tante les appelle, leur mère les appelle, non chrétiens, eux ils sont chrétiens, leurs frères les appellent, je suis malade. Et ils réagissent comme les gens du monde. Compassion humaine. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois prier pour lui, tu dois prier pour elle et t'attendre à la guérison, t'attendre au miraculeux. Mais parce que les gens ont honte aujourd'hui, l'Évangile n'avance pas. Quand vous voyez un homme qui n'a pas honte de l'Évangile, vous voyez des fruits dans sa vie. Je lisais le livre de Smith cette semaine dans le train et je m'étais mis tout au fond du train, dans un petit où on peut se mettre assis là, tout au fond, tout seul. Et Smith disait: êtes-vous prêt à vivre le miraculeux? Est-ce que vous êtes prêt à vous décider à ce que Dieu intervienne dans vos vies? Êtes-vous prêt à faire des rencontres divines? Et j'ai dit oui, Seigneur, je veux une rencontre divine dans ce train. Et en fait, j'avais pas réalisé que j'étais. Je savais que j'étais tout seul, mais j'avais pas réalisé que personne ne viendrait. Le train avait démarré déjà depuis 2 heures, plus de 2 heures. Et au milieu de la route, le train s'arrête parce qu'ils avaient défoncé une biche. Et donc on a pris 1h30 de retard. Et à 1/2 heure de l'arrivée, il y a 2 jeunes qui arrivent. Et ils s'assoient en face de moi. J'étais en train de lire ma Bible et le livre de Smith. Et ils commencent à me dire: mais c'est quoi, tu lis la Bible? Et en fait là on a parlé. Parce que j'avais pris la décision que Dieu intervienne dans ma vie. Parce que j'avais rejeté le fardeau de la honte. Alors que j'étais timide avant, cela m'aurait été impossible. Mais parce que j'ai rejeté ce fardeau, je leur ai parlé de Christ. Et quand vous commencez à parler de Christ, les paroles de connaissance viendront toujours. Elles viendront. Vous ne le saurez peut-être pas, mais elles viendront. Elles viendront. Quand vous allez arrêter de marcher avec le fardeau de la honte, le fardeau de la timidité, et que vous allez marcher dans l'esprit, dans la foi, en croyant qu'il va se passer quelque chose, il se passera quelque chose, et Dieu interviendra. Dieu ne peut pas intervenir si vous ne croyez pas. Dieu ne peut pas intervenir si vous n'allez pas leur parler. Et là, Dieu m'a donné une parole. Il m'a simplement dit, la personne s'appelait Amine. Il me dit, je dis: Amine, tu sais, Dieu te voit quand tu pleures. Peut-être on se dit, oui, tout le monde pleure, mais c'était une parole de connaissance pour lui. Et il dit, Dieu te voit quand tu pleures. Et ce jeune, qui avait à peu près mon âge, une deuxième parole pour lui, je lui dis, tu sais, Dieu t'aime. Je le répète, Dieu t'aime. Je le répète encore, Dieu t'aime. Et je pouvais voir les larmes autour de ses yeux, touchés par la grâce, touchés par la puissance de Dieu, parce que le fardeau de la honte n'était pas là. Si j'avais pris le fardeau de la honte dans ma cabine avec moi, si je n'avais pas mis ma foi en Dieu, Dieu n'aurait rien fait. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, c'est vraiment bizarre, on était dans le train assis à notre place. Et là, il y a un homme qui nous a dit, allez au fond, il y a un homme qui est tout seul. Ils sont allés voir cet homme qui était tout seul, c'était moi. Et je leur ai apporté l'Évangile. Et ce Amine en question, il m'a dit, mais c'est bizarre, je savais. Quand cette personne m'a dit ça, il y avait quelque chose de bizarre, de spécial. Il savait que Dieu l'attendait à cet endroit. Dieu agit. Dieu agit au travers des anges. Dieu agit au travers des hommes. Dieu agit toujours. Dieu veut agir. Dieu est prêt à faire n'importe quoi quand vous commencez à devenir fou pour lui. Quand vous commencez à sortir des petites pensées. Évangélisation, 15h à 18h. Culte, 10h30 à 12h30. Non, le culte, c'est plus que cela. On a des horaires, mais le culte, c'est 24 heures sur 24. La foi, c'est 24 heures sur 24. La prière, c'est pas que le mercredi soir. La prière, c'est tout seul chez toi. La prière, c'est dès que tu vois un frère. La louange, c'est dès que tu vois quelqu'un. La confession, c'est pas le dimanche matin. La confession, elle est au quotidien, dans ton travail, dans sa route, sur le chemin de ta vie. On doit rejeter ce fardeau de la honte. Il est dit, il a méprisé la honte. Jésus n'a pas supporté la croix seulement, il a méprisé la honte. Vous savez, si Jésus avait supporté la croix seulement, il ne se serait pas assis sur le trône. Il ne se serait pas assis à la droite de Dieu. Mais il a dû mourir sur la croix et mépriser la honte. Parce que s'il n'avait pas méprisé la honte sur le jardin, dans le jardin de Gethsémané, quand on est venu le chercher comme un voleur, il aurait fui par honte qu'on le prenne pour un voleur. Quand on lui a craché dessus sur le chemin de la croix, il se serait rebellé parce qu'il aurait eu honte. Quand on lui a mis un habit sur lui de roi pour se moquer de lui avec une couronne d'épines, il se serait débattu parce qu'il aurait eu honte. Il a dû mépriser la honte et mourir à la croix. Pas seulement mourir à la croix, mais il a dû mépriser la honte. On doit mépriser la honte. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous êtes dans une réunion de famille, dans un repas de famille, méprisez la honte. La honte du « quand diras-tu », on dit. La honte de ce qu'on va dire de toi. Est-ce que tu as honte de Christ ? Quand tu ne parles pas aux malades, quand tu en as un qui vient en face de toi et que tu lui dis rien, tu as honte. On ne doit pas marcher dans la honte. On doit marcher dans la foi, on doit marcher dans l'esprit, on doit marcher dans l'amour. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, en l'an 2007, de marcher dans la honte. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre. Trop de gens vont en enfer. Trop de gens restent dans leur maladie. Trop de gens restent dans leur dépression. Nous ne sommes rien. Ce que Dieu ce matin veut nous faire comprendre, c'est que nous ne sommes rien sans lui. Et que si nous commençons à se croire sages, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire de quelqu'un qui se prétend être sage. Nous devons marcher dans la foi en lui. Nous devons rejeter tout fardeau. Nous devons rejeter tous les péchés qu'il y a dans nos vies. Et nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu. Et il nous élèvera au temps convenable. Peut-être pour certains, tu dois quitter le péché. Peut-être pour d'autres, tu dois quitter la honte. Peut-être pour d'autres, tu dois quitter la timidité. Peut-être ce matin, tu as besoin de crier. Peut-être ce matin, tu as besoin de te mettre à genoux. Dès le moment où ta pensée te dit non, regarde les autres. Tu es en train de marcher dans la crainte. L'Église ne peut pas marcher dans la crainte. Christ nous aime. Christ a établi l'Église. Christ aime l'Église. Et Christ veut que l'Église ne marche pas avec un fardeau. Christ a dit, prenez mon joug, il est léger, il est léger. Le joug de la honte est très lourd, plus lourd que vous pouvez l'imaginer. On va prier un moment, et certainement on a besoin de rejeter tout fardeau aujourd'hui et tout péché. On va tous fermer nos yeux, et on va commencer à rejeter tout fardeau et tout péché. S'il y a des péchés dans vos vies, commencez à les confesser à Dieu et à les déposer une bonne fois pour toutes. Quand vous vous humiliez, quand vous vous attendez à lui, quand vous rejetez les fardeaux, Christ intervient. S'il y a des timides parmi vous, s'il y a des gens qui pensent que ce message est pour eux, parce qu'ils marchent dans la honte trop souvent, parce qu'ils marchent dans la crainte, trop souvent, dépassez les limites aujourd'hui. Levez-vous à votre place. Levez-vous à votre place. Et décidez de marcher sans honte, sans fardeau. S'il y a des gens qui sont dans le péché aujourd'hui, levez-vous. Levez-vous. Et déposez vos péchés aux pieds du Seigneur. Si vous avez un fardeau, si vous avez un péché courant dans votre vie, levez-vous.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.